Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Bonsoir, frères et sœurs. Et bienvenue pour la suite de ce très très long enseignement sur l'Apocalypse. Et c'est très intéressant, mais je sais que il va y avoir d'autres personnes qui vont s'ajouter, particulièrement quand on va commencer le chapitre 13, où on va parler de la bête. Mais c'est vraiment dommage, parce que l'Apocalypse n'a rien à voir avec l'histoire de la bête. On va voir qu'il y a juste un certain nombre de versets qui vont concerner effectivement l'Antichrist et la bête. Mais franchement, c'est terrible d'avoir fait de ce livre aussi extraordinaire que nous découvrons un livre qui finalement ne parle que de l'Antichrist, de la bête, de 666.
Bakatwereka ko ari igitabo kivuga 666 kivuga igikoko kivuga ibintu nyene.
Voyez bien que l'Apocalypse est complètement autre chose.
Urabona ko iki gitabo kitavuga ivyo gusa.
C'est une révélation merveilleuse.
Ariko kiduhishurira ibidasanzwe.
Sur le monde invisible, le monde de Dieu.
Kwisi taboneka y'Imana.
Sur l'éternité.
Kubijanye n'ibihe bitazoshira.
Sur la restauration et l'instauration du royaume de Dieu sur sa propriété.
Kubijanye no kunagura no kubakwa k'ubwami bw'Imana hano ku cibare cayo.
C'est la gloire de Dieu.
N'ubwiza bw'Imana batwereka.
Et on voit comment Dieu va faire les choses.
Kandi bakatwereka n'ingene Imana izokora ibintu.
Et Jean a vraiment des révélations extraordinaires.
Aho Yohana yeretswe ibintu bikomeye.
Moi, c'est ça que j'aime vraiment dans l'Apocalypse. Quand je plonge mes regards dans ce livre, en fait, je découvre plein de richesses au fur et à mesure. C'est vraiment passionnant. Et ça nous montre vraiment des choses qu'on ne découvre nulle part ailleurs dans aucun autre livre de la parole. Alors, brièvement, vous vous rappelez, hein, nous avons vu l'Apocalypse, cette révélation. Donc quelque chose que Dieu va dévoiler aux hommes. Nous l'avons vu, premier chapitre, hein, Jean voit Jésus, Jésus glorifié. Et chapitre 2 et 3, Jésus va révéler des choses aux sept églises, des messages aux sept églises à Jean.
Et
rappelez-vous, l'Apocalypse concerne des choses passées, des choses présentes et des choses futures. Ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Alors au chapitre 4, on voit qu'il n'y a plus l'église, nous l'avons découvert. Et à partir de ce moment-là, nous avons une scène absolument extraordinaire du ciel, une description. Et je vous rappelle que vous allez voir les choses telles quelles. Si dans le ciel, vous dites, mais je ne savais pas ça, 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 Jésus te dira avec un grand sourire, mais pourtant c'était dans ma parole. Il y a beaucoup de révélations sur le monde invisible.
Et
je vous dis, c'est très important d'avoir un minimum de connaissances sur le monde invisible. Ça vous aidera à éviter bien des fausses doctrines, parce que beaucoup de fausses doctrines viennent de choses qu'on a tordues sur le monde invisible.
kutamenya iby'isi y'impwemu
idukije. Et des gens croient et prêchent et même s'engagent dans des trucs qui ne sont pas bibliques parce qu'ils ne connaissent mal le monde invisible.
Abantu bakizera bakavuga ubutumwa bakinjira no mu bintu bidahuye no kuri kw'ijambo ry'Imana kubera kutamenya isi y'impwemu idukije.
Après cette scène extraordinaire que Jean nous décrit avec le trône de Dieu et tout ce qu'il y a autour.
Ha marero Yohana amaze kuvuga ikibi bintu avuga ku gice cya kane yerekana intebe y'inganji y'Imana n'ibikikuje intebe y'inganji.
Nous avons vu chapitre 5, et bien il va y avoir un livre scellé de sept sceaux.
Igice cya gatanu kitwereka igitabo kidombagijwe kudushasharindwi.
Et Jean est très triste parce que personne n'est digne d'ouvrir ce livre sauf qui, bien sûr, l'agneau qui a vaincu.
Yohana ngo biramubabaza cyane mugabo asanga umwagazi w'Imana arabereye kuguru ico gitabo ayari yabuze uwundi yocugura.
Et là il va y avoir sept sceaux qui vont être le déclenchement de la tribulation à partir du moment où le premier sceau est ouvert, le premier sceau de ce livre.
Amarero agashashara kambere kico gitabo kuguruwe.
Là, on sait que c'est quoi? Eh bien, c'est la tribulation qui commence.
Byavugango ehe ihamwa riraje riratanguye.
Et je vous rappelle que la tribulation
ndabibutsa kandi ko ihamwa bavuga
n'est pas l'œuvre du diable.
Iri hamwa
ntirizoba n'est pas l'œuvre de l'antichrist.
Sigikogwa cha satani.
La tribulation c'est pas 666.
Ihamwa si ya indi 666 mama mwumva.
Mais la tribulation c'est 7 ans.
Ariko igiye cihamwa ni imyaka indwi.
Qui vont être exécutés. Ce sont des prophéties déterminées à l'avance selon la souveraineté de Dieu. Dieu est parfaitement en contrôle de ces sept années. Et c'est Dieu qui déclenche la tribulation.
Et
nous avons vu que l'événement qui va déclencher la tribulation, c'est l'enlèvement de l'Église. Nous l'avons vu. L'enlèvement de l'Église, la première phase de la première résurrection.
Et
l'Église est au chaud au troisième ciel. Et pendant sept ans, Dieu va bombarder la terre. Et pourquoi il y a sept ans? Parce que nous avons vu qu'il y a des prophéties qui parlent de 70 semaines d'années. Prophétie de Daniel. Et nous savons que lorsque le Messie a été retranché, il y a 69 fois 7 ans qui ont déjà été exécutés, c'est-à-dire
483 ans.
Et quand le Messie est retranché, l'horloge prophétique pour Israël s'arrête. C'est le temps de la dispensation du mystère, la dispensation de la grâce, la dispensation de l'Église, ce temps particulier où nous sommes. Et juste au moment où Jésus va enlever son église, enlever son ambassade, eh bien, l'horloge prophétique pour Israël va recommencer. Et il y a sept ans qui ont été révélés au prophète Daniel, nous l'avons vu. C'est dans Daniel chapitre 9, je vous le rappelle. Mais pour comprendre l'image globale, nous avons étudié Daniel chapitre 2 aussi, qui est l'image de la statue. Et la petite pierre qui se détache de nulle part. Qui est Jésus qui écrase cette statue, qui fait tomber toute cette statue, c'est-à-dire tous les systèmes de ce monde. Parce que ça, c'est l'idée toujours de la fin de l'Apocalypse, c'est que Dieu va venir instaurer son royaume. Donc il va venir régner avec ceux qui l'auront servi, qui auront choisi de le servir. Ça, c'est vraiment ce que vous devez comprendre dans l'Apocalypse. Rappelez-vous que la Bible, c'est l'histoire d'un royaume qui a été perdu, c'est-à-dire qui a été bradé. Et qui va être restauré. Nous sommes entrés dans le royaume au travers de la nouvelle naissance. Nous pouvons influencer cette terre avec le royaume de Dieu. Mais il y a un jour où Christ va venir établir totalement son royaume. C'est pour ça qu'il y a des étapes qui nous sont expliquées dans la parole de Dieu. Alors, nous savons que pendant ce temps où il y a la tribulation sur la terre, eh bien, nous, là-haut, nous sommes récompensés, c'est le tribunal de Christ.
Donc
nous avons étudié les six premiers sceaux. Et les six premiers sceaux vont se dérouler les uns après les autres. Et en parallèle, il faut lire Matthieu 24, bien sûr. Plus la tribulation avance, plus Dieu va envoyer des jugements de plus en plus rapides, de plus en plus forts, de plus en plus destructifs sur les hommes. Et je vous ai dit, pour l'instant, Dieu n'envoie aucun jugement sur la terre. Ne confondez pas les périodes de la tribulation avec les temps où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de confusion. Les gens mélangent tout. Le moindre truc qui se passe dans ce monde, ah, c'est Dieu. Non, Dieu n'envoie aucun jugement aujourd'hui. Par contre, pendant la tribulation, oui, il enverra les jugements, comme il l'a fait pour, devant Pharaon avec les plaies d'Égypte. Sauf que là, ça sera mondial.
Il
faut bien comprendre la différence, parce que alors, sinon c'est la confusion et beaucoup de chrétiens sont confus avec ça. Donc plus on avance dans les sceaux, plus Dieu va envoyer ses jugements de plus en plus rapidement, plus en plus rapprochés. Et quand le septième sceau est ouvert, là, le septième sceau va être démultiplié, entre guillemets. C'est-à-dire que le septième sceau va amener sept autres jugements. Et c'est les sept trompettes. Et les six premières trompettes sonnent, nous l'avons vu. Et nous avons vu qu'il y a des jugements, et les jugements sont de plus en plus forts. Dieu juge très fortement la terre. Ça fait très mal. Mais apparemment, les hommes ne veulent pas se repentir. Nous l'avons vu à la cinquième trompette. Dieu fait vivre un enfer pendant cinq mois sur la terre. On a découvert des choses absolument incroyables du monde invisible. Ensuite, nous avons vu la sixième trompette. Et là, il va y avoir un tiers des hommes qui vont être tués. Et d'une façon vraiment étonnante, alors que toutes ces personnes ont souffert parce que Dieu a été clair. Et rappelez-vous, là on est dans des moments où on persécute, on torture, on essaye de tout faire pour éradiquer le nom de Dieu sur cette terre et la connaissance de Dieu sur cette terre. Parce que je vous rappelle que quand vous lisez la tribulation, pensez toujours que Satan fait les pires horreurs sur la
terre.
Regardez bien, vous voyez, sur cette terre, il y a déjà eu, quand nous étudions l'histoire de l'humanité, on a eu des horreurs dans ce monde. Les plus grandes horreurs qu'on a eues, c'est malheureusement dans le XXe siècle, pour l'instant. Par exemple, la Deuxième Guerre mondiale a amené plus de 50 millions de personnes à être tuées. On voit des horreurs. L'histoire de l'humanité a été parsemée de génocides. Des hommes se sont tués pour différentes raisons. On a même offert des sacrifices humains. On a fait toutes sortes d'horreurs sur cette terre. Mais là, pendant cette période de la tribulation, rappelez-vous, il va y avoir confrontation de puissance. On va en parler de plus en plus. Entre Dieu qui envoie ses jugements et Satan, qui va faire monter son antichrist, bien sûr, nous allons le découvrir petit à petit. Et au milieu de ça, qui fait, qui livre une guerre absolument épouvantable, horrible envers ceux qui servent le Seigneur.
Muri ako kanya nyene abariko aratera ibitero bikomeye ku bantu bose bagomba kugendana cyangwa gukorana n'Imana.
Parce que rappelez-vous, il y a un bon nombre de gens qui, quand l'Église sera enlevée, vont réagir devant l'Évangile.
Kuko mwibuke ivyo twavuze yuko ishengero n'iryaduzwa bamwe
bazosigara. Nous avons vu même dans la première partie de la tribulation, il y aura 144
000
juifs qui vont se convertir. Donc quand on voit les jugements, il
ne
faut pas se dire « Ah oui, Dieu est méchant ». Non, entre-temps, les saints sont tellement persécutés. Pour l'instant, la Bible, l'Apocalypse, on n'en parle pas trop. Mais vous allez voir, quand on va étudier le chapitre 13, déjà 12 et 13, on va commencer à voir les horreurs sataniques que Satan va faire sur les chrétiens, les gens qui vont se donner à Christ dans cette période de tribulation.
Ce
sera une persécution mondiale hors du commun. Satan va tout faire pour que ceux qui se sont donnés à Jésus le renie et l'adore. Nous verrons que là, il y aura vraiment perte du salut pour un bon nombre de ces personnes-là. Rappelez-vous cette parole du Seigneur dans Matthieu 24, où il dit que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Vous voyez, Matthieu 24, ça recoupe constamment l'Apocalypse. Mais ne lui faisons pas dire ce que Matthieu 24 n'a jamais dit. Donc ensuite, nous avions vu le chapitre 10. Et là, on voit qu'il y a un petit livre qui est donné à Jean. Jean entend des voix de tonnerre et au travers de cela, il y a un message que Dieu lui transmet.
Yohana yumva amajwi y'imituragaro hagataho hakaba hari ubutumwa Imana iri kwiramushikiriza.
Et on voit que le tonnerre, la voix divine qui tonne du ciel, se manifeste à un certain nombre de fois. Vous savez, frères et sœurs, quand nous serons au troisième ciel, nous allons entendre le tonnerre de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont fait des expériences, je vous l'ai dit, qui ont été ravies en esprit, qui ont entendu cela.
Et
il y a une révérence absolument fabuleuse dans le ciel, devant l'autorité suprême de Dieu. Mais nous n'avons rien à craindre puisque nous sommes sauvés et nous serons là-haut avec lui. Mais apparemment, ça fait du bruit là-haut. Alors, nous avions vu que Jean a un ordre de manger ce petit livre et il ne doit pas écrire d'ailleurs ce qu'il a entendu. Et nous avons vu que Ézéchiel avait fait la même expérience. Mais là, pour Ézéchiel, c'était comme du miel. Le goût du livre. Et là, quand Jean va avaler ce livre, bien sûr, c'est une vision. Il n'a pas mangé du papier. C'est quelque chose de prophétique, avec un certain nombre de significations. Et là, la Bible nous dit que c'était comme du miel et comme aussi quelque chose d'extrêmement amer. Et je vous ai montré les deux aspects toujours du caractère de Dieu. Et aussi de sa manifestation vis-à-vis des hommes. Dieu veut récupérer sa propriété. Il veut que pour l'éternité, que le plan qu'il avait avec Adam et Ève se réalise avec nous, frères et sœurs. Pour ça, il doit frapper fort pour que le diable lâche prise et qu'il soit pour l'éternité mis hors d'état de nuire. Donc Dieu doit juger très fortement. Il y a un côté où il y a toute la gloire de Dieu et nous serons dans une joie exceptionnel.
Mais
d'un autre côté, pour que Dieu arrive à instaurer son royaume sur la terre,
eh bien,
ceux qui auront désobéi et persévéré jusqu'au bout dans la désobéissance seront détruits. Et vous savez, ça ne fait pas plaisir à Dieu d'envoyer des gens en enfer. Soyons bien clairs. L'enfer n'a pas été créé avec joie par Dieu. Parce que Dieu ne se plaît pas à envoyer des jugements sur les hommes, sur sa créature créée à son image. Mais la justice de Dieu doit s'exercer. Le péché doit être sanctionné. Jésus a payé le prix pour nos péchés. Et Dieu a dû juger le péché au travers de
Christ
en sacrifiant son fils. Et c'est pour ça qu'il nous donne à chacun d'entre nous, à chaque être humain, la grâce de pouvoir être sauvé. Et c'est pour cela qu'il nous donne cela et que la grâce est vraiment gratuite. Qu'il
n'y
a vraiment rien. Personne ne pourra dire. Oui, mais moi, ce que tu demandais, Seigneur, ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas courir 100 mètres en moins de 6 secondes. Si Dieu nous demandait ça, il n'y aurait personne qui irait au ciel. Parce que personne n'a réussi à courir un 100 mètres en moins de 6 secondes. Donc si Dieu nous demandait de faire quelque chose qui serait possible même pour certaines personnes et impossible pour d'autres, nous pourrions effectivement dire à Dieu, là, tu n'as pas été juste. Dieu s'est arrangé pour que vraiment tout soit fait en Christ. Mais ça fait mal au Seigneur de savoir qu'il doit envoyer des personnes en enfer. Ça ne le réjouit pas. Même des gens qui lui ont insulté toute leur vie. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour l'envoyer en enfer. Donc vous voyez, il y a tout cet aspect où Dieu doit juger, parce que Dieu est un Dieu de jugement. Sa justice doit s'exercer. Mais d'un autre côté, Dieu se réjouit parce qu'il va récupérer sa propriété. Et il va faire ce qu'il a toujours voulu faire avec sa créature créée à son image. Et c'est vous et moi, frères et sœurs. Chaque personne qui a donné sa vie à Christ,
depuis
que Jésus est ressuscité. Alors, au chapitre 11, nous avions commencé à le voir. Il va y avoir un certain nombre de choses qui vont nous être révélées encore ici. Et il est dit au verset 1, on me donna un roseau semblable à une baguette en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent là. Mais le parvis extérieur du temple, ne le laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. J'accordais à mes deux témoins le don de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Alors, nous avons découvert un certain nombre de choses. Alors, ici, on a fait quelques petits calculs la dernière fois pour qu'on ne s'y perde pas dans les expressions. La Bible est claire, elle parle de 7 ans de tribulation. Mais il est clair que cette tribulation va être coupée en deux. Il y a la première partie de la tribulation et la deuxième partie. 3 ans et demi. Et la deuxième partie de la tribulation s'appelle la grande tribulation. Elle dure 3 ans et demi. Mais il y a différentes expressions qui vont nous, je dirais, être équivalentes à ces 3 ans et demi.
imvugo zitandukanye zijanye n'ico gihe cy'imyaka 3 n'inusu.
Par exemple, 42 mois.
Ubu baravuga amezi 42.
Si vous faites le calcul de 42 mois, vous trouverez 3 ans et demi.
Uharuye amezi 42 n'imyaka 3 n'inusu.
Vous trouverez aussi 1260 jours.
Ahanduka bona iminsi 1260.
Donc ça, vous allez le trouver aussi dans la Bible pour mentionner cette deuxième partie de la tribulation.
Ibyo byose bisanga muri Bibiliya kugira bavuga ico gice cya kabiri cyihamwa.
Et puis vous allez trouver cette expression, nous l'avions vu la dernière fois dans différents passages, où il est parlé un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, nous avons cherché un petit peu à savoir ce que ça voulait un temps, à vouloir dire un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et en fait, c'était assez simple à découvrir. Un temps, on sait que c'est un. Par contre, des temps, ben finalement, ça correspond à deux temps, deux ans. C'est pour ça que certaines traductions, vous avez deux temps. Un temps plus deux temps plus la moitié d'un temps, c'est-à-dire trois temps et demi.
Donc
ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Mais il faut le savoir parce que il faut qu'à chaque fois que vous lisez cette expression, tout de suite, ça clique en vous et dit ah oui, ça, ça fait partie de la grande tribulation. Donc à partir du moment où on parle de la grande tribulation, on parle de 3 ans et demi.
Ou
de 42 mois.
Amezi 42
ou de 1260 jours, ou l'expression un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire un temps plus deux temps plus un demi-temps, une demi-année. Alors ici, d'un seul coup, Jean va commencer à nous parler, verset 3, on va relire ensemble, on va relire du verset 3, jusqu'au verset 12. Voilà, 3 à 12, on va dire juste en français. Alors, je donnais à mes deux témoins, on va parler des deux témoins ce soir, le pouvoir ou l'autorité de prophétiser revêtu de sac pendant 1260 jours. Alors, on est d'accord, 1260 jours, clac, maintenant vous avez compris, ça fait partie de quoi? C'est égal au temps des 3 ans et demi de la grande tribulation. Donc, le moment où on verra l'Antichrist va se lever. Et il va y avoir le gouvernement mondial. On expliquera ça juste un peu après. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Verset 6. Ils ont le pouvoir, ou littéralement l'autorité légale, sur la terre entière, comme nous allons découvrir, de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Regardez bien cette expression, qu'ils le voudront. On va en parler. Vous allez découvrir ce que Dieu va faire et on va essayer de découvrir qui sont ces deux témoins. Ensuite, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête. On va parler de la bête. Vous voyez, on commence à trouver cette expression. Ça commence à venir et on va la trouver de plus en plus. Surtout chapitre 12, chapitre 13. On va voir tout cela et Jean va recevoir certaines visions. Ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Verset 9, des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Verset 10, et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront. Regardez bien, ils seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents, des cadeaux, les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté. Regardez bien ici, ces deux prophètes ont tourmenté qui ? Les habitants de la terre. Verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Verset 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuit et leurs ennemis les virent. Alors, nous allons découvrir un petit peu ce que sont ces deux témoins.
Rekaro tugaragaze kuraba tumaze gusoma kuva kuri 3 gushika kuri 12 turabe aba ibi byabona aba bashingira intaha imana abaribo.
Alors d'abord témoin littéralement en grec c'est martyr. C'est-à-dire, ceux qui vont souffrir, ici dans ce sens-là, dans le sens biblique du terme, ceux qui vont souffrir jusqu'à être tués pour leur foi. Rappelez-vous, nous sommes dans la tribulation. Et nous l'avons vu la dernière fois. L'Antichrist va s'asseoir à Jérusalem parce qu'il aura réussi à tromper Israël. Nous verrons un peu plus tard. Nous verrons que l'Antichrist va faire une alliance avec Israël. Et Israël va penser qu'au travers de ça, il pourra être protégé. Et c'est justement là où l'Antichrist va se révéler et prendre le pouvoir en Israël avec pour objectif de détruire Israël, bien sûr. Mais Israël verra la tromperie trop tard. C'est là où ils vont se faire avoir. Ils seront à la fin de la tribulation, ils seront au bord du gouffre et c'est là où Jésus et nous, ses saints, viendront délivrer Israël. Je vous le dis et je vous le répète parce qu'il faut faire attention. À chaque fois qu'on lit des textes comme ça, il ne faut pas les juste lire ça et dire c'est quoi les deux témoins, pourquoi ils prophétisent, pourquoi est-ce qu'ils tourmentent les habitants de la terre.
On
est dans une période, comme nous le découvrirons, où l'Antichrist a déjà pris le pouvoir mondial. Objectif, détruire Israël. Objectif, persécuter les chrétiens, les faire les plus souffrir atrocement. Objectif, éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre. Que les chrétiens renient Jésus et adorent la bête et perdent leur salut. Objectif, emmener un maximum de gens en enfer. Par tous les moyens, avec la montée du péché comme le monde n'aura jamais, jamais, jamais connu. Dieu envoie deux témoins, deux martyrs, deux prophètes qui vont avoir une puissance absolument phénoménale. Rappelez-vous, et nous le reverrons à différentes reprises, parce que là, nous avons vu les jugements de Dieu qui frappent, qui frappent, qui frappent, qui frappent. C'est ce qu'on a vu avec les sceaux pour l'instant et les trompettes. Mais là, à partir du chapitre 12 et le chapitre 13 et 14, on voit la réaction des puissances sataniques pendant que Dieu frappe, au fur et à mesure que Dieu frappe.
Vous
voyez, c'est ça que vous devez comprendre dans l'Apocalypse, c'est que c'est une succession de visions qui se focalisent sur certaines choses et après ça change de thème. Si vous ne comprenez pas que c'est une succession de visions et ça change de thème, c'est la confusion. Pour l'instant, que ce soit le chapitre 6, 7, 8, 9, 10, 11, on s'est concentré sur quoi? Sur Dieu qui vient, qui envoie la tribulation, qui frappe, qui frappe, qui frappe, qui frappe, et qui frappe de plus en plus vite et de plus en plus fort. Là, Dieu envoie deux témoins, deux serviteurs. Deux personnes qui vont avoir un rôle de prophète, avec une puissance divine, une onction absolument phénoménale. Ils vont être capables de faire des signes et des prodiges. Rappelez-vous dans cette période-là, dans la période de la grande tribulation, Jésus dit que Satan fera de grands, grands prodiges. Il y aura beaucoup de surnaturels sataniques qui vont séduire les gens jusqu'à temps, comme nous le verrons, de faire cette alliance irrévocable avec le diable, ce pacte avec le diable irrévocable. Donc il va y avoir beaucoup de signes, de prodiges, de miracles faits par les puissances des ténèbres dans la grande tribulation. Et là, le Seigneur va envoyer deux témoins qui vont être des prophètes et qui vont directement défier l'Antichrist. Comment est-ce qu'on peut défier les puissances sataniques dans cette période-là? Satan, je vous le rappelle, va créer ce gouvernement mondial. On expliquera comment il va le faire. Il aura son antichrist et il y aura un prophète à côté de lui. Et ils vont séduire les nations. Ils vont vraiment séduire les nations par toutes sortes de signes de prodiges. Dieu envoie ses jugements et Satan essaie de dire, mais regardez, cet homme-là, sous-entendu l'Antichrist, il a des solutions. Et ces prophètes qui vont être là pendant 3 ans et demi, que vont-ils annoncer? Ben, ils vont annoncer plusieurs choses. D'abord, ils vont annoncer la repentance. Ce sont des témoins de Christ, donc ils vont annoncer Christ. Mais aussi, ils vont annoncer publiquement certaines choses que Dieu va faire qui sont écrites dans la parole en prévenant les gens. Et pour dire, vous savez, actuellement, il y a beaucoup de gens qui nous disent, oui, vous dites que Jésus va revenir. Amen, des preuves que Jésus va revenir. Essaye de prouver que Dieu existe.
Vous
voyez, il y a beaucoup de provocations aujourd'hui. Mais c'est la petite provocation. Les deux témoins vont se tenir en prophétisant exactement des événements qu'il est écrit ici. Vous vous rappelez de l'histoire de Moïse, quand Moïse va voir Pharaon. Il lui dit, si tu ne laisses pas aller mon peuple, voilà ce que le Seigneur va envoyer. Il y aura telle plaie et telle plaie sur ce pays. Et paf, ça tombait tel quel. Jugement de Dieu sur un pays.
Oh,
là, ces prophètes vont être beaucoup plus loin que Moïse encore. Parce qu'on peut remarquer très clairement que d'abord, verset 4, il est dit, ils seront comme des oliviers. Et là, c'est souvent le symbole d'Israël, les oliviers. Du témoignage de Dieu sur la terre. Ensuite, il est parlé d'être comme des chandeliers. Donc, c'est évidemment, ces chandeliers, ça représente la lumière de Dieu, la vérité au milieu des ténèbres. Alors, regardons un peu la puissance que Dieu va octroyer à ses témoins. Verset 5, il est dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, parce que vous voyez, là, les gens vont s'opposer extrêmement à ses témoins, à ses prophètes. Il est dit, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Rappelez-vous, Jean voit dans l'esprit. Ils
n'ont
pas une flamme comme un briquet. Il n'y a pas de flamme physique qui vont sortir de leur bouche. Un prophète parle. Et s'il est loin, c'est les paroles qu'il dit vont exactement s'exécuter. Nous allons voir, on va étudier certains passages. Donc dévore leurs ennemis, c'est-à-dire ils vont mourir. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. C'est-à-dire, ces prophètes vont parler. Et leurs paroles ointent, c'est-à-dire comme si c'était du feu qui sortait de leur bouche.
ibintu bikomeye azoba
amajambo asize. Parole de jugement vont frapper les hommes qui leur cherchent.
Ara majambo y'urubanza ahane abantu bashatse kubagirira nabi.
Il y a quelques petites histoires dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament qui vont vous faire réfléchir.
Sinzi ko mwibuka udukuru tumwe na tumwe reka tutuvuge ko muri kahise gisezerano rya kera na rishasha.
Nous avons un certain nombre de passages qui nous parlent de ce genre de phénomène.
Hari bica bitandukanye bitubwira ibintu mwe n'ivyo byagiye biraba.
Regardons dans Luc chapitre 9 versets 54 à 56.
Luka igice cy'icenda 54 gushika kuri 56.
Vous savez, l'onction est quelque chose de très particulier.
Amavuta y'Imana ni kintu kidasanzwe.
Qui demande beaucoup de responsabilité.
Ni kintu gisabwa ko umuntu abibazwa
cyane. Beaucoup de gens prient pour avoir de grands ministères mais ne se rendent pas compte les responsabilités que cela incombe.
Benshi barasenga ngo baronke ibikorwa by'Imana bikomeye mugabo ntibatahura amabanga bijyana.
Il y a des gens qui brillent, qui disent oh Dieu, moi je vais être un grand évangéliste parce que je vais voir des grandes foules devant moi et guérir tous les malades.
Mana ngomba amavuta menshi mbona isinzi ry'abantu nkiza abagwayi bose imbere yanje.
C'est bien gentil.
Ni byiza.
Mais sauf que quand tu amènes déjà une âme à Christ, après tu as tendance à rétrograder déjà.
Ariko
tellement tu as de pression spirituelle sur toi.
Wibuke ko hari n'igihe uzana umuntu umwe kugakiza ugaca usanga ugomba no gusubira inyuma kubera ikirere kibi cyagukikuje.
On va lire un peu plus haut que le verset 54. Là où ils vont arriver. Encore verset 52. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et ils entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Rappelez-vous, les Samaritains, les Juifs avaient horreur des Samaritains. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Quand vous étiez au nord d'Israël, la Galilée, je vous rappelle que Israël était divisé en trois parties à l'époque de Jésus. La Galilée, province du nord. La Samarie, qui était une sorte de grande bande au milieu, une grande province au milieu. Et au sud, il y avait la Judée.
Et
c'est là où il y avait Jérusalem. Et évidemment, quand on voulait passer de la Galilée vers la Judée, il fallait passer par la Samarie. Et les Samaries étaient des étrangers pour des Juifs. Et ils se rentraient dedans. Alors les Samaritains empêchaient souvent ou n'accueillaient pas bien les Juifs qui voulaient rester passer une nuit en Samarie et après descendre sur Jérusalem. Et au verset 53, il est dit, on remonte d'un verset, merci, 53, « Mais on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. » Verset 54, « Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?»
ngo ntibamwakira kuko yerekeje Yerusalemu. Abigishwa biwe Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati mugenzi ugomba ko tubarira umuriro ngo utibuke uve mu ijuru ubayigize nkuko yari yakoze.
Mais là je suis étonné parce que regardez les noms des deux disciples. Là c'est qui? C'est Jacques et Jean. Pierre avait dû avoir mal à la langue ce jour-là. Parce qu'il était toujours dans ses coups-là en général.
Uyu munsi Petero sinzi yararingira ururimi rwari rwagwaye ni Yakobo na Yohani bavugwa.
Pierre, quand il fallait pas dire quelque chose, il le disait toujours.
Petero iyo ibintu bidakenewe kuvugwa niwe yabivuga.
Mais là on voit Jean, l'apôtre de l'amour.
Ariko ngaha tubonye Yakobo na Yohana, Yohana bamwita ngo numuvugishwa w'urukundo mu intumwa y'urukundo.
Il devait être énervé aujourd'hui ce jour-là Jean.
Uwo munsi bari bashishwe.
Mes petits enfants, vous lisez les premières épîtres, deuxième épître, troisième épître. Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres, mes petits enfants. C'est 1, 2 et 3 Jean, c'est waouh.
Urazi uri kurasoma ivyete vya Yohana avuga ngo bane bato bakundwa ashiramo amajambo y'urukundo menshi Imana ni rukundo ibintu
nk'ibyo. Jean avait besoin d'être un peu sanctifié là.
Urumva ngira umunsi yarakeneye kwezwa gato.
Vous savez, c'est pas par hasard que Jean et Jacques ont dit une telle chose. Jean et Jacques connaissaient la puissance de l'onction. Et dans l'Ancien Testament, il y a eu un prophète un jour qu'on a traité de chauve. Et il a maudit des adolescents et les adolescents sont morts. C'est un peu choquant quand on lit un texte comme ça. Le prophète prononce une parole.
avuga ijambo rimwe.
Et ces jeunes gens sont morts. Il y a un ours qui est sorti et qui les a tués.
Abo bahungu barapfa hazidubu irabajya irabamara.
Ah, c'est sûr, c'est bien. C'est une histoire qui est pour les autres.
Urumva,
ça ne concerne pas directement. Heureusement, c'est pas nos enfants qui se sont fait manger ce jour-là.
Imana ishimwe ko twebwe bitatwereke ntiturimwo abiwacu ntibarimwo ni byabariya nyene.
Mais imaginez-vous le drame que ça peut représenter.
L'homme
de Dieu s'est fâché, il a parlé une parole et mon enfant est mort. Merci Seigneur d'être né dans la grâce. Mais on voit une puissance de certains prophètes de l'Ancien Testament sur les jugements.
Verset
55, regardez ce que Jésus va répondre. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Regardez ce qu'il va leur dire en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, verset 56, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre des âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre endroit, un autre bourg, un autre village. En fait, Jésus leur dit ici, il leur dit, mais vous êtes il leur dit pas, vous êtes complètement fous, c'est complètement impossible ce que vous dites.
Non,
sérieusement, ça pouvait être possible. Ça pouvait être possible. Vous savez, l'onction de Dieu détruit aussi. Détruit aussi. L'onction de Dieu peut détruire. Elle détruit les œuvres du diable. Mais vous savez, l'onction, si elle est mal utilisée, ça peut être dangereux. Dangereux pour des personnes. C'est un autre sujet. Mais vous savez, quand Dieu vous oint, vous avez une délégation de sa gloire à votre disposition. Et particulièrement pour les prophètes. Donc revenons à notre texte avec les deux témoins, les deux prophètes, où on voit que ces deux prophètes ont un pouvoir, une autorité légale. À partir du moment où il y a, quelqu'un qui vient s'opposer à eux, ils peuvent, par une parole, détruire quelqu'un. Par une parole. À partir du moment où quelqu'un est là devant eux et veut leur faire du mal, attenter à leur vie, rappelez-vous, ils sont à Jérusalem. Ils sont au milieu de là où il y a le siège même de l'Antichrist. C'est pour ça que Dieu les revêt clairement d'une puissante autorité, d'une puissante onction. Nous ne sommes plus dans le temps de la grâce, nous sommes dans le temps des jugements. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent être graciés et être sauvés pendant la tribulation. Mais la première personne qui s'oppose à Dieu est jugée. Et peut être détruite. Et là, particulièrement, si quelqu'un veut faire du mal, du feu sort de leur bouche. Donc, des paroles ointent et dévorent leurs ennemis, c'est-à-dire détruisent leurs ennemis. Ils meurent. Et la Bible est claire, c'est pas un langage figuratif. Elle rajoute, et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Là, c'est clair, c'est vraiment une onction qui va frapper de jugement et qui va tuer. Et vous savez, quand Moïse a parlé de la mort des premiers-nés, ils sont tous morts, les premiers-nés d'Égypte. Je vous dis une chose, il ne faut pas être dans le coin quand Dieu se fâche. Et des gens qui vont provoquer Dieu à ce moment-là, ça va faire mal. Verset
6.
Il est dit maintenant, Ils ont le pouvoir, l'autorité légale en grec, littéralement, de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang pour frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le veulent.
Ngo bafise ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura ntikoroke mu minsi yo kuvugishwa kwabo kandi bafise ubushobozi ku mazi kuyahindura amaraso no kubabarisha isi icago cyose uko bagombye.
Donc évidemment, quand vous lisez ce texte-là, vous pensez rapidement à quoi? Vous dites, tiens, ils ont le pouvoir quoi, de fermer le ciel. Ça vous fait penser à qui, ça? Dans l'Ancien Testament? À Élie, bien sûr.
Évidemment.
Vous vous rappelez que Élie, alors que la reine Jézabel et le roi Akab avaient amené l'idolâtrie, l'apostasie, c'est-à-dire le fait de se tourner vers des démons. Tout le peuple d'Israël,
Jézabel,
et bien à ce moment-là, Élie a été envoyé par Dieu. Et il a dit clairement, il ne tombera pas de pluie en Israël, sauf à ma parole. Regardons ce texte dans 1 roi 17.
1
roi 17. Donc la première personne à qui on va penser, 1 roi 17 au verset 1, c'est bien sûr au prophète Élie. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galat, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Regardez bien ce verset ici. Regardez. Il n'y aura ces années-là ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole, c'est-à-dire selon ma parole. Moi, Élie, c'est Élie qui parle ici.
C'est
bien dit ici. Hein. C'est à ma parole, à ma parole, moi, Élie. Il n'est pas dit selon la parole de l'Éternel. Ça veut dire que Élie ici avait, en tant que prophète, une autorité divine, déléguée par Dieu. Rappelez-vous, Israël est dans une alliance nationale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces choses-là ne sont pas possibles dans le temps de la grâce. Ce n'est pas notre alliance. Mais là, c'est l'alliance nationale, la loi de Moïse, alliance nationale avec Israël et Dieu. Donc Dieu lui donne une délégation, une autorité sur la terre à Élie. De dire, il n'y aura pas de pluie. Sauf si j'ai envie. Donc sous-entendu, vous là, vous allez dépendre de moi. Parce que Dieu m'a donné l'autorité de le faire. Imaginez-vous la responsabilité. Élie aurait pu dire, bon ben, on va attendre 30 ans.
Bon,
pourquoi pas 50? Élie aurait pu faire ça. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole.
Élie
avait le pouvoir de fermer le ciel à ce moment-là. Avec cette autorité divine. Bien sûr, en revenant au texte d'Apocalypse, verset 6, ils ont le pouvoir de changer aussi les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le veulent. Regardez bien encore ici. Là encore, autorité totale déléguée. Ils ont juste à prononcer une parole et la puissance de Dieu descend. L'onction en manifestation. Comme si Dieu leur disait, voilà, c'est comme si vous me représentez ici même sur la terre par rapport au mandat que je vous donne. Grande responsabilité. Donc c'est clair que ici les deux prophètes vont provoquer l'Antichrist. Ils vont provoquer tous les suiveurs de l'Antichrist. Ils vont défier la terre. Vous savez, à l'époque, Jean ne savait pas qu'un jour il y aurait les télévisions et Internet.
Yohana akibona ibi bintu ntiyibaza kwico gihe bizoba hazoba hariho internet n'ama télévision.
Je ne sais pas ce qu'il a vu. Ça serait intéressant de se poser la question, mais je ne sais pas ce qu'il a vu réellement parce qu'il a essayé de le décrire avec ses mots.
Jojo hakubona ko muri byo Yohana byukuri yabonye kuko ngira yaragerageje kubivuga n'amajambo yiwe yaratahura ico gihe.
Mais aujourd'hui, les plus grandes façons et les plus je dirais les façons tellement faciles de communiquer.
Ariko uyu munsi turafise uburyo bwo guhanahana makuru bunyarutse bworoshe.
C'est de dire voilà.
Kuvuguti
à partir d'aujourd'hui,
kuvuyumunsi,
je vais faire ça et ça et Dieu va faire ça.
Ngira nkora ibi kandi Imana igira ikora ibi.
Tout le monde va l'entendre.
Bose bakavyumva kubera makuru agenda agenda.
On est au je dirais aux prémices de la possibilité maintenant d'avoir un gouvernement mondial. On n'y est pas encore.
Uyu munsi turahantu leta mpuzamahanga leta imwe ku isi nzima yoroshe gushiraho cyane turashika.
Avec les moyens de communication que nous avons, ça devient de plus en plus facile.
Kubera ingena makuru anyaruka cyane biroroshe cyane.
Il était impossible, même les plus grands empires qui ont essayé de conquérir toute la terre entière n'ont jamais réussi.
Byari bigoye cyane n'ubwami bwigeze kuba bukomeye
kera. Ils ont pris des territoires assez grands.
Warasanga bigarurira ibirere binini
cyane. Mais ça a été très difficile à gérer.
Wasanga mugabo bidashoboka ko baguma aho hantu umwanya muremure.
Donc là, ils vont provoquer directement l'Antichrist.
Ariko iki gihe boba bamaritiri bazosomborotsa Antichrist.
En disant voilà, on va vous annoncer que le prochain jugement de Dieu
bavuga bati
ça.
Bavuga bati urubanza Imana igira barungikire nguru bice bibukoje.
Il va y avoir tant de personnes qui vont mourir ce jour-là.
Uwo munsi uzubone harapfuye abantu bangana uko.
Et ça va se passer.
Akavuga ati bagira apfa bangana uko bakapfuko nyene.
Un certain nombre des sceaux que nous avons étudiés et des trompettes que nous avons étudiées.
Bimwe mudushashara twize n'inzamba twize.
Là nous en sommes dans la sixième pour l'instant.
Aha turacyari ku nzamba ya gatandatu.
Nous sommes au septième sceau, sixième trompette.
Turi mu ku gashashara kindwi inzamba ya gatandatu.
Je vais vous dire une chose. Ces prophètes vont prophétiser. En disant, voilà ce que Dieu va faire. C'est écrit dans sa parole.
Et
ça va se produire tel jour. Repentez-vous. Servez Dieu. Et bon nombre de gens vont dire non et ils blasphémeront contre Dieu. Et d'un seul coup, le jugement va tomber sur eux. Donc, regardez la provocation. Je vous ai dit, plus on avance dans la tribulation, plus il y a confrontation de puissance. Et Dieu donne ces deux témoins pendant ces 3 ans et demi. Avec une puissance qu'aucun prophète n'aura jamais eue sur la terre. Pourquoi je dis ça? Parce que rappelez-vous, Élie l'a fait sur Israël. Il a stoppé la pluie sur Israël. Eux, ils seront capables sur le monde entier. Moïse a déclaré des plaies divines sur un pays, l'Égypte. Eux, ils seront capables de le faire sur la terre entière. Donc, ils auront beaucoup plus de puissance qu'Élie et Moïse. Alors, il y a eu pas mal de discussions sur qui sont et qui étaient ces témoins. Alors, ces deux témoins ne sont ni Élie ni Moïse. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont commenté en disant « Oui, bien c'est sûr, comme ils vont... Il y en a un qui va fermer le ciel et qui va l'ouvrir, l'autre qui va envoyer des plaies. » Ça va être Moïse et Élie qui vont revenir.
Non.
Mais je vais vous montrer pourquoi, c'est très simple. Et il y a plusieurs raisons pourquoi je dis non directement. Ça ne peut pas être Élie, ni Moïse d'ailleurs. Ce n'est pas possible, pourquoi ? Parce que où seront Élie et Moïse au début de la tribulation? Nous savons que déjà Élie et Moïse actuellement, depuis que Jésus est ressuscité d'entre les morts, nous savons qu'ils étaient dans le sein d'Abraham, comme tous les saints de l'Ancien Testament. Nous l'avons étudié. Jésus les a fait naître de nouveau quand il est ressuscité, qu'il est venu visiter le Saint Abraham. Il a libéré les captifs, dont Élie et Moïse d'ailleurs. Donc depuis la résurrection de Jésus, Élie et Moïse sont où? Au troisième ciel. Mais nous savons que avant la tribulation, c'est-à-dire au moment où la tribulation va être déclenchée, il va d'abord y avoir l'événement de l'enlèvement de l'Église. Élie et Moïse, comme tous ceux qui seront au troisième ciel, et nous les croyants, si on est encore vivant ici dans notre corps, nous allons revêtir le corps incorruptible. Élie et Moïse vont ressusciter. Si nous, nous sommes là, nous serons transformés en un clin d'œil aussi, et nous serons au troisième ciel dans notre corps incorruptible, c'est-à-dire immortel, et qui ne pourra jamais pécher. Nous avons étudié ça. Donc Élie et Moïse seront déjà avec leur corps ressuscité et glorifié. Donc ça ne peut pas être ni Élie ni Moïse. Pourquoi? Parce que si on continue de lire, ils vont mourir. Quand ils auront achevé leur témoignage, c'est-à-dire vers la fin de la grande tribulation, la bête qui monte de l'abîme, on étudiera ça un peu plus tard, leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Comment, si c'était Élie et Moïse, comment est-ce qu'ils pourraient mourir encore, puisqu'ils ont déjà un corps ressuscité, incorruptible, glorifié aussi avec la récompense, je vous rappelle, ils ne peuvent plus mourir. Donc c'est impossible que ce soit Élie ou Moïse. La deuxième chose aussi, le deuxième argument, pourquoi c'est impossible que ce soit Élie et Moïse? Parce que Dieu ne réincarne personne. Il est réservé aux hommes de mourir. Donc il n'y a pas de réincarnation, il n'y a personne qui va venir du ciel et renaître physiquement sur cette terre. Vous savez, il y a eu de la confusion quand on a lu les prophéties de Malachie où il était dit, et il y a Élie qui doit revenir. Et Jésus a dit, oui, c'était Jean-Baptiste. Et il a dit, c'est l'Élie qui devait revenir, c'est-à-dire, c'était celui qui devait marcher avec le message prophétique et la puissance d'Élie.
Mais
Jean-Baptiste n'a pas été une réincarnation d'Élie. Un enseignement sur la réincarnation, c'est-à-dire qu'on peut mourir et après qu'on peut revenir sur cette terre dans un autre corps, ce n'est pas biblique, c'est une doctrine démoniaque. L'homme meurt une fois, soit il va au ciel, soit il va en enfer. En attendant que soit il ressuscite pour la première résurrection ou il ressuscite pour la deuxième résurrection. Donc ces deux témoins ne sont ni Élie ni Moïse. Ceci est extrêmement clair. Alors qui sont-ils? Eh bien, on ne sait pas. Par contre, on peut se poser quelques questions. Ce sont des prophètes. Donc des gens qui sont dans le ministère. Personnellement, je pense Et quand je pense, nous irons ensemble au ciel et Jésus vous dira que le pasteur Olivier avait raison. N'oubliez pas cela. Je pense personnellement une chose. Parce que ce sont des gens qui vont être dans le ministère, dans la tribulation. Dieu ne peut pas donner à un tout nouveau converti ce genre de responsabilité. Je crois personnellement que c'était ces deux personnes qui, à mon avis, avaient une certaine connaissance de Dieu. Ils n'étaient pas nés de nouveau avant l'enlèvement de l'Église, bien sûr.
Ils ont
certainement été élevés dans une atmosphère très chrétienne, sans être nés de nouveau, qui vont se convertir au début de la tribulation. Parce que pendant la tribulation, il va y avoir deux types. Il y a des gens qui vont se convertir en masse, nous le savons. Mais il y a un groupe qui va renier Jésus et perdre son salut à cause des persécutions. Nous allons le voir. Il y a un autre groupe qui lui va aller jusqu'au bout. Beaucoup vont être tués pour leur foi, martyrisés pour leur foi, torturés pour leur foi. Donc ça va être des gens ultra engagés. Et certainement que ces deux témoins vont être des gens extrêmement engagés avec Dieu.
Que
Dieu va oindre au bout de 3 ans et demi. Et ils vont se lever et provoquer l'Antichrist. En tout cas, ce n'est pas des gens qui étaient chrétiens avant l'enlèvement, puisque ils auront été enlevés, ils ne seraient plus là. Donc c'est des gens qui vont naître de nouveau tout au début de la tribulation. Donc ça nous prouve aussi qu'il va y avoir pendant la tribulation des chrétiens extrêmement engagés qui vont souffrir énormément, ça nous le savons. Mais apparemment qu'il y aura des ministères, parce que est-ce qu'il y aura seulement ces deux prophètes-là? On ne sait pas. Mais c'est sûr qu'exercer le ministère dans ces temps-là, bon courage. Parce que ça va être absolument horrible. Donc, l'Antichrist, la bête, va faire la guerre et va les tuer. Et regardons bien juste après. Ils vont garder leurs cadavres. On va exposer leurs cadavres comme des trophées publics parce que les gens vont les haïr. Les gens qui haïssent Dieu vont haïr ces faux prophètes, ces prophètes de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit clairement qu'ils vont tourmenter les gens. Ils vont vraiment, regardez le verset 10, on va lire du verset 8 maintenant jusqu'au verset 10 et après on va lire comment Dieu va les ressusciter. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Donc apparemment c'est à Jérusalem. Il est dit dans un sens spirituel, Sodome. Sodome, ça veut dire qui brûle. Qui brûle quelque chose. Et là, il parlait encore dans un sens spirituel, l'Égypte, l'oppresseur. C'est ça que ça veut dire, oppresseur, Égypte. Le mot Égypte vient d'une racine qui veut dire oppresseur, quelqu'un qui va oppresser les autres.
Et
ça, c'est pour décrire la condition de Jérusalem à ce moment-là. Donc, on va mettre leurs cadavres, verset 9, on les met là, on les expose. En fait, on ne veut pas les enterrer. Pourquoi? Regardons verset 10. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront, seront dans l'allégresse et s'enverront des présents, des cadeaux les uns aux autres. Parce que les deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Dans le sens où ils sont en train de dire, celui-ci c'est l'Antichrist. Vous allez allez en enfer. Vous êtes en train d'adorer cette bête. Ce
antichrist.
Vous êtes en train de pécher. Des abominations devant Dieu. Nous dénonçons le péché. Rappelez-vous, Satan va amener une mesure du péché sur la terre que la terre n'a jamais connue. C'est ce que Jésus nous dit clairement dans Matthieu
24.
Dans une telle mesure que la terre n'a jamais connu cela. Et ces prophètes-là vont tourmenter ses habitants en leur disant: vous êtes séduits, vous êtes dans le péché, vous êtes contre Dieu, repentez-vous. Le monde déjà nous hait. Quand on parle de Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de médias qui sont très puissants dans ce monde. Quand vous commencez à dire que vous aimez Dieu et que vous servez Dieu, ils vous diabolisent. Entre guillemets. Parce que l'esprit du monde, c'est l'esprit de l'antichrist, c'est ce que la Bible nous dit. C'est-à-dire tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Et là, justement, ces deux témoins, ces deux prophètes, vont tourmenter les hommes parce qu'ils vont leur dire. Nous vous annonçons que demain, voici ce que Dieu va envoyer comme jugement sur tel et tel endroit. Voici combien de personnes vont mourir. Fuyez, repentez-vous. Et les gens vont vouloir servir le diable, l'antichrist. Et ça va leur tomber dessus. Et ça, ça va irriter énormément le monde entier. Contre ces deux personnes. En disant, il faut qu'ils soient détruits. Mais on n'arrive pas à le détruire, à les détruire. À chaque fois que nous voulons les détruire, c'est eux qui prononcent une parole et nous mourrons. Et là, l'antichrist arrive à les tuer. Donc, ils sont contents. Vous voyez, les gens, imaginez-vous, des gens qui servent Dieu, des gens qui montrent la puissance de Dieu, des gens qui disent, repentez-vous, il y a encore une chance d'être sauvés. Et les gens sont contents quand ils meurent. Vous savez, quand vous envoyez des cadeaux alors que quelqu'un est mort, c'est que vraiment vous haïssez la personne qui est morte. Parce qu'en général, même si vous n'aimez pas trop une personne, vous dites, bon, tant pis pour elle, elle est morte. Mais jusqu'à s'envoyer des présents, les gens de toute la terre vont s'envoyer des présents. En disant bon débarras. Tellement ils auront haï ces deux prophètes. Tellement ces deux prophètes. Vous savez, il y a parfois des gens, c'est étonnant, mais il y a parfois des gens, on peut leur montrer par A plus B que Dieu existe. Ils peuvent avoir vécu même des choses. On a prié pour eux. Ils ont vécu des miracles. Et ils refusent de voir la vérité. C'est ce que les pharisiens ont fait avec Jésus. Jésus faisait des miracles, des guérisons. Il démontrait la puissance de Dieu. Et Jésus les a traités d'aveugles. De gens qui ne voulaient pas voir. C'est exactement ce temps de séduction sous lequel la terre va se trouver à cette période-là. Donc ils sont très contents parce qu'on en est débarrassé. Mais versets 11 et 12. Après les 3 jours et demi, les gens sont trop bizarres. Vous savez, les gens qui persécutent ne connaissent pas la puissance de Dieu, ça se voit. Ils
ne
savent pas qui nous servons. Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et il se tint sur leurs pieds. Et une grande crainte, regardez là, une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Parce qu'ils étaient en train de célébrer la victoire de leur mort et d'un seul coup, ils vont ressusciter. Imaginez-vous les médias du monde qui annonçaient avec gloire la mort de ces deux personnes qui les dérangeaient et qui témoignaient pour Dieu d'une façon puissante. Voilà, c'en est fini. Vous voyez bien, ces gens-là, ils viennent de Dieu. Eh bien, ils ont foutu. Et on annonce ça partout. Sauf que 3 jours et demi plus tard, ils ressuscitent. La puissance de Dieu. Je vous ai dit, il y aura une grande confrontation de puissance. De grands signes, de grands prodiges, de la part de Dieu. Mais le diable va essayer de se déchaîner. Verset 12. Et ils entendirent du ciel, regardez, une voix qui disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Il y a 5 personnes qui sont montées au ciel comme ça. Il y a Enoch. La Bible nous dit dans Genèse 5, de versets 22 à 24. Enoch 5, 2, pardon, Genèse 25, verset 22. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et dans Hébreux 11, en parallèle, on va regarder ce que ça veut dire cela. Hébreux 11, verset 5. Ça va être la première personne qui va mourir d'une manière un peu particulière. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, c'est-à-dire la mort comme nous la voyons, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, Enoch est la première personne qui est morte de cette façon-là. Qui n'a pas connu une mort comme nous allons la connaître. Sauf si Jésus revient avant. Ensuite, Élie. Deux rois 2, versets 9 à 12. Il est parlé d'Élie aussi, qui va être enlevé et mourir en étant enlevé. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. » Imaginez-vous, c'était étonnant. Élie savait qu'il allait d'un seul coup partir comme une fusée. Avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion, une double mesure de ton esprit. Verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, ça t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Verset 11. Et comme ils continuaient à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Hop, il est parti. Alors, on voit que Élie aussi va vivre cela. Jésus aussi va partir comme ça.
Mais
lui, c'est après sa résurrection. Et ces deux témoins aussi vont partir comme ça. Ça, c'est des exemples particuliers.
Fait
à l'initiative de Dieu. Et nous serons enlevés aussi. Aspirés dans les airs. Mais là, il y a 5 exemples qu'on voit un peu particuliers. En dehors de l'enlèvement global de l'Église, où des personnes vont être aspirées surnaturellement par Dieu. On va lire le verset 13 et le verset 14 pour clôturer ce soir. Il est dit, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la dixième partie de la ville s'écroula. 7 000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Vous voyez, il y a comme des gens qui, au milieu des jugements de Dieu, vont crier à Dieu. Le second malheur est passé, voici que le troisième vient bientôt. Et en fait, le premier malheur, c'était quoi? C'était les créatures qui sont sorties de l'abîme pour tourmenter les hommes. C'était le premier malheur que nous avons vu dans les trompettes. Le deuxième malheur pour les hommes, ce sont les deux prophètes.
Et
la Bible nous parle qu'il y aura un troisième malheur. La semaine prochaine, nous allons voir le début de la septième trompette qui va sonner. Et d'un seul coup, Jean va voir prophétiquement toutes sortes d'événements qui étaient qui sont dans cette période aussi là où il est, où il prophétise,
et
l'avenir. Mais d'un seul coup, dans la révélation, on va avoir des éléments qui vont s'ajouter, qui vont nous aider à mieux comprendre cette fin des temps encore. Que le Seigneur vous bénisse. Et bonne soirée à tous.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.